Radio Estable.
One edition from NPR News.
Radio News and the people.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Être une mère célibataire en Corée du Sud, vous comprendrez ce que ça veut dire quand vous saurez que 2% des enfants seulement naissent hors mariage. Et ce sera l'escale reportage signé ce soir Frédéric Ojardias, sous les radars, et Amélie Perrier. Vous l'avez entendu au Royaume-Uni, au Mexique notamment. 18h50, Le Monde selon Trump, saison 3, avec un président américain qui reçoit Tiger Woods dans son bureau ce soir. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four à Gaza ce soir. Comment lire ces attaques du week-end ont fait monter les enchères d'un côté comme de l'autre, nous dira Jean-Marc Four. Mais avant, c'est en Thaïlande que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
On a suivi, vous aussi peut-être, le couronnement du roi de Thaïlande, Rama X, dont le nom complet est autrement plus difficile. Bonsoir David Camerou. Ben, forcément, je vais vous le faire. Vous êtes capable de le prononcer, le nom entier du roi thaïlandais?
Non, ou pas du
tout. Voilà. Ben, moi non plus, honnêtement. Mais on vous le mettra sur franceinter.fr. On a vu en tout cas les couleurs, on a vu la chaise à porteurs, on a vu le folklore qui accompagne ce couronnement. Mais ce qu'il faut dire, David Camerou, c'est que le folklore, c'est une chose, mais c'est pas la reine d'Angleterre, hein, le roi de Thaïlande. Il a un vrai rôle politique. C'est un acteur politique majeur de son pays, cet homme.
Tout à fait, et il a un rôle politique même plus important que son père. Son père qui avait cette image du père du pays,
nation, hein, ouais,
de la
ouais.
nation. Son fils, Rama X, a augmenté le pouvoir de la monarchie. Il a, par exemple, il a pris la main sur tout ce qui est l'immobilier de l'État, mm-hmm. qui vaut à peu près 30 milliards d'euros. Le roi possède, par exemple, 10 mètres carrés au centre de Bangkok. On ne sait pas lequel, mais il mm-hmm. possède 10 mètres carrés. Et donc, on a dépensé pour ces cérémonies, je crois, quelque chose comme 30 millions d'euros pour les trois jours pour le couronnement.
Mais alors, son fameux rôle politique, parce qu'on dit qu'il a... Parce qu'il faut rappeler aux gens que son père est mort en 2016. Il y a un très, très long temps de deuil. C'est pour ça que le couronnement a eu lieu ce week-end seulement. Il a déjà fait amender la Constitution pour accroître son rôle. En quoi il a envie, besoin, d'avoir un rôle plus important que son père, celui-là?
Il semble un soif de pouvoir. Il fallait qu'il se protège aussi, parce que les militaires sont ses alliés. Mais il a mis à la place, en fait, au chef des forces armées, un de ses proches, pour un peu isoler le junte militaire, en fait, un peu pour minimiser le pouvoir. Donc il y a un rapport à la fois de soutien et de concurrence avec l'armée. Et aussi, il a, dans ce pays qui est divisé, hein, c'est un pays
extrêmement divisé d'ailleurs, ouais.
C'est peut-être le pays le plus inégalitaire en Asie. Les distinctions entre le nord, le nord-est et le sud sont profondes. Donc le nord-est est 9 fois moins riche, hein, par exemple, que la région de Bangkok. Donc il a besoin de se rendre plus légitime, et c'est ça le but de l'exercice de ces trois jours, en fait.
Mais on dit notamment, en tout cas moi c'est ce que j'ai lu ce week-end, que ce roi allait faire avancer son pays vers plus de modernité. Fermez les guillemets. En général, c'est un peu des mots passe-partout qui ne veulent pas dire grand-chose. Est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose? Est-ce qu'il y a effectivement une volonté de faire avancer la Thaïlande vers autre chose ou pas? Parce que, encore une fois, l'image qu'on en a, c'est un pays qui va d'un coup d'état militaire à un autre coup d'état militaire. Et vous l'avez dit, une espèce d'alliance entre la monarchie et l'armée.
Et l'armée et aussi la fonction publique, une grande fonction publique. Et l'élite sino-thaï économique.
Donc plus de modernité pour ce roi-là, ça peut vouloir dire quoi, en fait?
Ça veut dire la continuité. Ça veut dire qu'on ne change pas le mode de développement et on va peut-être faire un peu plus pour les paysans comme il faut, parce qu'il y avait le montée avec Thaksin Shinawatra, l'ancien premier ministre, et sa sœur qui était renversé par les coups d'État, qui voulaient reprendre justement aux besoins de petits peuples, en fait, des paysans. Et ils étaient accusés, en faisant ainsi, de vouloir remplacer le roi dans son rôle de protecteur de petits peuples. Alors, ce roi, ici, il doit aussi donner un peu cette image, parce qu'il est physiquement très absent.
Absolument. Il vient de rentrer, en fait, ce garçon.
Il vient de rentrer. On ne sait pas. Il part beaucoup de son temps en Allemagne et en Suisse. Il a construit un château. Et il a changé aussi la constitution, que pendant son absence, il n'a pas de régence. Donc, on ne peut pas publier les dates de ses départs. Donc, et sur les médias sociaux, comme les droits de lèse majesté fonctionnent très bien, donc il
peur. On a le droit de rien dire en fait sur le roi en Thaïlande. Comme ça, au moins, c'est clair pour lui, remarquez.
Mais... voilà. Donc sur les médias sociaux, on utilise le code de Justin, de Just parce qu'il, quand il s'habille comme Justin Bieber.
Ah, comme Justin Bieber. Je me demandais quel était ce Bieber. Justin.
Donc on parle sur les médias sociaux de Justin, c'est une façon de parler du roi et pour éviter d'être accusé de lèse majesté.
Parce que c'est vrai qu'il a cette réputation. On a beaucoup dit lorsque son père est mort qu'il faisait beaucoup la fête. Il y a des mêmes photos qui ont été publiées.
Oui.
Alors, pas en Thaïlande, évidemment, mais dans la presse allemande, on a vu qu'il avait un tatouage monumental dans le dos, etc. Son père était très aimé. Est-ce qu'il a vraiment des cœurs à gagner, ce Ramadis ? Est-ce que ça le préoccupe d'avoir ses cœurs thaïlandais à gagner ? Ou au fond, il s'en fout, en fait ?
Bah, je crois qu'il s'en fout un peu, parce que les Thaïlandais sont attachés au symbole du monarque, mais pas forcément à ce monarque. Mmh. Et je crois qu'on va mesurer, en fait, le vrai soutien pour ce roi dans les prochaines années. On va le voir même dans une semaine après la publication des résultats des élections législatives, ce jeudi.
Mmh.
Et on va voir quel est le niveau, en fait, du soutien, disons, de conservateurs monarchistes. Et le soutien, par exemple, il y a un mouvement politique qui s'appelle En Avant, un peu comme En Marche, et qui est un mouvement des jeunes qui veut un pays plus libéral, plus démocratique. On va voir quel est le soutien pour ce parti s'il n'est pas encore interdit par la commission électorale.
Alors, j'allais vous y emmener. Les Thaïlandais ont voté le 24 mars dernier. Les résultats, effectivement, on commence à en avoir une petite idée assez vague. Ce sera effectivement au milieu de cette semaine-là. Mais on dit, ce qu'on dit beaucoup, c'est que la victoire des militaires responsables du coup d'État de 2014 est à peu près clair, on va dire.
Oui.
Est-ce que, au fond, c'était quoi ces élections, ces législatives? Première depuis 5 ans quand même, hein, première fois que les gens vont voter en 5 ans. Est-ce que c'était une sorte de référendum, en gros, pour ou contre ces militaires au pouvoir ou pas?
C'est en partie ça. C'était fait pour légitimiser le pouvoir du général Prayut, qui était un premier ministre nommé par la junte militaire, qui souhaitait être un premier ministre élu.
Voilà.
Mais en fait, le système est tel qu'il y a 250 sénateurs nommés par les militaires. Donc, il y a, même si les partis de l'opposition ont une majorité dans le Parlement, ils ne pouvaient pas nommer le Premier ministre.
Avec un système qui est, je ne veux pas qu'on embrouille les gens, mais qui est un système extrêmement complexe de ce que j'ai cru comprendre en Thaïlande. Une dernière chose avant qu'on aille faire un aller-retour sur place. Les sondages parlaient d'une participation massive, c'est ce qu'on lisait à l'époque, 80-90%.
Oui.
Semble-t-il, il y a eu moins d'électeurs que ce qu'on avait imaginé. Est-ce que c'est un signe de quelque chose ou pas du tout?
Oui, c'est un signe de déception, surtout parmi ce qu'on appelle les chemises rouges, qui sont les soutiens du nord et du nord-est de l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra et de sa sœur. Donc, il y a une espèce d'abandon, en fait, par une partie de la population, de d'espoir, en fait, dans le système démocratique.
Bonsoir Thibaut Cavaillès.
Bonsoir Fabienne.
Ça fait presque une semaine, Thibaut, que vous êtes en Thaïlande. Vous avez assisté à ce couronnement dont on parlait à l'instant. Vous observerez d'ailleurs les résultats progressifs. Dites-nous juste d'abord, vous êtes où, Thibaut ?
Alors là, je suis à la frontière avec le Cambodge, à Ranyaprateh. C'est à 5 heures de train de Bangkok où j'étais encore ce matin.
Alors, parmi les gens, Thibaut, que vous avez rencontrés, des gens qui y ont voté, ce qu'on entend beaucoup, vous allez nous le confirmer ou pas, c'est un vote d'accord, mais sans beaucoup d'illusions sur leur situation personnelle au fond, non ?
Alors, déjà, j'ai senti sur la situation générale, ce que j'ai senti, Fabienne, c'est que les Thaïlandais sont perturbés en ce moment, perturbés par votre invité à en parler, par la division qui règne dans le pays, division politique, alors comme on en voit partout ailleurs, mais pour eux, la pluralité politique, eh bien, c'est synonyme de désaccord et de la fin d'une harmonie qui est chère à la culture thaï. Ces tensions politiques, elles amènent, me racontait une journaliste, elles amènent les Thaïlandais à se replier sur eux-mêmes et à se désunir, ce qui n'est pas donc dans les traditions du pays, d'où l'intérêt porté vers ce roi censé unifier tout le monde. Et politiquement ici, beaucoup pensent que la junte militaire au pouvoir se chargera de réunifier les Thaïlandais. C'est le discours en tout cas des militaires, la réunification. Et j'ai pu croiser une professeure d'anglais, elle s'appelle Nitaya. Elle est ravie d'avoir pu voter, ravie de la junte au pouvoir, mais elle demande quelque chose quand même.
Moi, je suis ravie d'avoir pu voter et il faudra accepter le vote de la majorité. Moi, je suivrai ce que dira le nouveau gouvernement. La junte au pouvoir, leur force, c'est de toujours réagir vite. Ils sont capables de maintenir les choses sous contrôle. La question maintenant, c'est est-ce qu'ils sont capables d'améliorer l'économie du pays ?
Et ce que dit cette femme, Thibault, illustre assez bien finalement ce qu'on disait tout à l'heure. Les Thaïlandais se serrent la ceinture.
Alors les Thaïlandais, mais pas tous, hein, car dans ce pays où le capitalisme et le libéralisme se déploient, avec des centres commerciaux immenses, c'est tout récent, hein, des publicités partout, des écrans publicitaires partout, vous avez des riches qui le deviennent encore plus, et des pauvres qui le restent, ça se voit dans Bangkok, hein, cette différence, avec des habitations sommaires qui côtoient d'immenses tours, des condominiums, ces immeubles au confort moderne. Hier j'ai discuté avec King, il a 27 ans, il vit toujours chez ses parents, fait des livraisons la semaine et travaille le dimanche dans le petit restaurant familial, c'est une gargote, hein, où je l'ai rencontré, et les temps sont durs, m'assurait-il.
À mon avis, aujourd'hui, les gens sont obligés de faire des économies, parce que les prix dans les quartiers aux alentours ont augmenté, et ça se sent sur nos revenus. Moi-même, je dois économiser en ce moment. Les produits qui coûtent le plus, ce sont les légumes et la viande. Et même si je vais les acheter en gros, dans le quartier, les prix ont augmenté. Et puis le transport coûte plus cher aussi. Moi, je veux économiser parce que je prévois de me marier. Ces jours-ci, il faut que j'arrive à mettre de côté 1000 bahts par semaine, environ 30 euros. Aujourd'hui, je gagne à peu près 10 000 bahts par mois, soit 280 euros, avec, en plus, un petit revenu, obtenu grâce à mon travail de livreur que je fais de temps en temps.
Voilà, ici, 10% de la population vit sous le seuil de pauvreté, encore plus chez les ruraux. Alors, il faut le dire, c'est un pourcentage qui est à la baisse, hein, quand même, d'année en année. Mais il faut signaler aussi, Fabienne, que la fortune de la famille royale correspondrait, selon des chercheurs, à un sixième du PIB de la Thaïlande. Je ne vous dis que cela.
Merci beaucoup, Thibaut Cavaillès, avec nous depuis la Thaïlande ce soir. David Cameron, vous disiez tout à l'heure que c'était le pays le plus inégalitaire en Asie que la Thaïlande. La situation telle que nous la décrit, là, Thibaut Cavaillès, effectivement, c'est celle, vous diriez, d'une majorité de gens. C'est celle de qui, en fait ?
Et c'est surtout les ruraux. Et la campagne a toujours servi comme une espèce de, disons, pour la sécurité sociale. Les ouvriers, par exemple, de bâtiments, quand il y avait la crise économique de 1998, ils sont rentrés dans les villages pour quelques années, et ensuite ils sont revenus dans le village. Donc le village sert comme une sorte de comment dirais-je, de sécurité, en fait, de filet de sécurité pour la population. Mais les paysans n'ont pas vu une amélioration de leur situation. Et justement, c'est ce public-là qui a soutenu largement Thaksin Shinawatra.
Mais est-ce que c'est une préoccupation réellement? Est-ce que c'était dans sa campagne même de ce militaire dont vous disiez effectivement qu'il, une fois après le coup d'État, il veut une légitimité qui viendrait des urnes? Est-ce que cette préoccupation sociale, elle existe réellement?
Pas tellement. Il y avait un discours un peu plus populiste pendant ces élections, mais c'était un discours plutôt au niveau moral qui était soutenu par le roi. Le roi a déclaré, avant les élections, il faut voter pour les hommes justes. Et c'est une façon codée à dire, il faut voter pour les gens proches des militaires. Donc c'est plutôt sur la fibre morale.
La morale, ça ne manque pas de sel quand on décrit le roi tel que vous l'avez décrit
voilà,
au début de
cette interview. Voilà, une fibre aussi nationaliste, le retour des traditions, avec les feuilletons télévisés quand on essaie de vivre. En fait, il y a un retour, par exemple, quand les femmes s'habillent de plus en plus avec une costume traditionnelle, ce qui n'est pas le cas il y a une dizaine d'années. Donc, une espèce de, oui, on joue sur la fibre nationaliste, sur la thaïtude, plus que sur les questions, disons, de sécurité, en fait, d'égalité, ou même de démocratie. La question démocratique n'était pas à l'ordre du jour.
Non, et c'est vrai qu'on a un peu le sentiment, peut-être que je vais caricaturer, mais 20 coups d'État, c'est ça, depuis 1932, dont 12 qui ont réussi. On a l'impression qu'il y a une espèce de mode de gouvernement aussi, en fait, chez les Thaïlandais, que ce retour perpétuel, en fait, d'un gouvernement militaire et d'un gouvernement fort par coup d'État.
Oui, il y a un système cyclique.
C'est
un coup d'État, on change la constitution, il y a des élections, et un gouvernement civil pendant une certaine période, ensuite un coup d'État, et ensuite on continue. Donc c'est effectivement un mode de gouvernance, et ce qui est paradoxal, c'est que ce mode de gouvernance, en fait, était efficace au niveau de développement économique, un développement économique inégalitaire, mais ce qui est étonnant en Thaïlande, c'est que malgré tous ces coups d'État, ça ne change strictement rien sur le plan des investissements étrangers, sur le tourisme, et ainsi de suite.
Il y a une opposition quand même qui a du sens ou pas ?
Il y a, ce qui est intéressant dans cette élection, c'est justement ce mouvement en avant, ce parti, petit parti de milliardaires, c'est un parti des jeunes, Et qui montre aussi le clivage entre la ville, en fait, la ville cosmopolite de Bangkok et le reste du pays. Et là, il y a vraiment le fait qu'il y a ce mouvement un peu centriste qui souhaite instaurer de la démocratie donne un peu d'espoir pour l'avenir. Le fait que l'ancien parti au pouvoir, le parti démocrate, soit éclipsé, c'est un peu le même phénomène qu'on a connu en France.
Mmh. Voilà, donc on attend la rotation démocratique éventuellement qui viendrait de ce parti-là avant... une nouvelle rotation militaire sous les yeux du roi qui a quand même 66 ans, c'est jeune 66 ans, mais son père a passé combien 7 décennies sur le trône.
Oui.
Voilà, on est aussi sûr au moins que son fils ne passera pas 7 décennies
non,
sur le trône.
Non, on pose des questions sur l'état de santé de l'actuel roi et c'est une des raisons qu'il ne passe pas autant de temps en Allemagne.
Merci beaucoup David Camerou, merci beaucoup. Chercheur associé au Centre d'études et de recherche internationale, vous êtes prof à Sciences Po aussi, spécialiste évidemment de l'Asie, merci mille fois.
France Inter. Fabienne Synthès, Un jour dans le monde.
Vas-y, on va y rester. Tiens, la suite, ça se passe en Corée du Sud avec des mères célibataires ostracisées par cette société sud-coréenne. Et vous verrez ce que ça veut dire grâce à Frédéric Ojardias, sous les radars et Amélie Perrier. On parle de mille chèques au Royaume-Uni, on parle d'aéroports à Mexico et de foot pendant le Ramadan. Le Monde selon Trump, saison 3. Et bonsoir à vous Grégory Philips.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Il est en terrain conquis votre Donald Trump cet après-midi, il parle de golf.
Oui, il a invité le champion Tiger Woods à la Maison Blanche. Il va lui remettre une médaille très importante ici aux États-Unis. Puis on parlera du rapport de Trump et de ce sport. La manière dont il le pratique dit peut-être beaucoup de choses sur le 45e président des États-Unis.
Allez, à tout de suite, le monde à l'envers, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Jean-Marc, à Gaza, c'est un drôle de jeu qui se joue, un jeu d'échecs qui fait monter les enchères.
Oui, on pourrait parler presque de mort pour rien, tant ce morceau de guerre est avant tout du billard politique à trois bandes.
Allez, à tout de suite, ne changez rien, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Royaume-Uni, voici Lol Carner, You Don't Know, dans Un Jour dans le Monde.
When you were here above, before I had a favorite love. Before, back when I adored, but now I'm fearing of. Before, every other fell up, I was hearing of. Back when the day would fade to grey, when you were fearing of. Cause now I only made love if I'm in love. You wasn't in love, then what'd you think, love? Thinking I'ma hold you on the brink until we sing. Fade like a bubble, rather have another drink, love. I'll drink up and disappear. Cause honestly, you don't need me here. It's like you need it, can't defeat the fear. But now I see you can't believe, but I read it clear. Play me like an arse, I won't spend another evening here. Deep, the evening clears, drowning in stuff. Just know you clouded my guts, going down on this love. But now I sit in a hurry, worry nuts that I bust. Knowing you only went down to f***, so what the fuck is up?
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.
Check, look. I know this shit sounds philosophical and borderline ironic, but this topic's very logical. Whether it's a blessing or a motherfucking obstacle that breaks apart and leaves the brokenhearted to the hospital. Powerful devotion for some. When I was young, lack of any kind of emotion had me hopeless and numb. Back when I was dumb, I was never running my gums, just always running from webs that I spun. Stress weighing a ton, weight was more than I was able to bear. Cause in my mind it's mad fruity to be labelled a pair, but blatantly scared, escaping any fragrant affair. That was my duty, always threw me into times of despair. Writing rhymes to try to describe the many times that I care. Cause honestly, to put it properly, I'm underprepared. And who am I to play the cast away? I've got a bigger part to play. So when they ask me, it ain't hard to say.
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.
Oh,
So why are you crying? Stop the crying, I weren't crying on you. Stop the lagging, worry about them brothers lagging on you. They're sliding on you, bump and grind every night upon you. Getting slag upon you, crag upon you, then get tired of you. Balling cause I ain't on you, what the fuck you mean? I closest to trust I've ever seen. Well shit, well there I said it now, forget it like a dream. No regret, can't forget the shit you seen. Should've kept it clean.
Il s'appelle Lloyd Carner, c'est dans la playlist de France Inter. You Don't Know, c'est le titre.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier. Amélie, pour lutter contre les idées extrémistes, les Britanniques se battent avec des milkshakes.
Et oui, la scène se déroule la semaine dernière à Warrington, pas très loin de Liverpool, dans le centre-est de la Grande-Bretagne. Daniel Mahmoud, 23 ans, se rend à un rendez-vous médical quand des manifestants antifascistes l'invitent à se joindre à eux. Ils protestent contre la venue de Tommy Robinson, le fondateur de la Ligue de Défense Anglaise. Là, il est candidat aux élections européennes. Et voilà ce qui se passe quand ils se mettent à parler à Daniel Mahmoud. Voilà, Daniel lui jette son milkshake au visage. Les proches du politique se jettent sur lui et lui donnent quelques coups. Voilà ce que vous méritez, espèce de fasciste, crie un autre manifestant. La vidéo devient virale et Daniel, lui, devient le porte-étendard des opposants à l'extrême droite. Un rôle dont il se serait bien passé car aujourd'hui il reçoit des menaces de mort. Daniel, qui pourtant n'est pas le seul à critiquer le candidat Robinson, la veille du déplacement à Warrington, le dirigeant d'extrême droite était à Bury, un peu plus au nord, vers Manchester.
Wow! Wow!
Et là aussi, en pleine rue, un manifestant lance un milkshake sur Robinson. Depuis, dans l'entourage de Robinson, on ne supporte plus les milkshakes. Un des gros bras du candidat a été filmé en train de menacer un adolescent qui en tenait un juste comme ça, dans sa main. Et parmi les nouveaux slogans des antifascistes, « The revolution will be pasteurized », la révolution sera pasteurisée comme le lait du milkshake, comme un pastiche aussi de ce tube.
You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised.
The revolution will not be televised. J'ai scoté, Ron. Ouais, c'était juste pour le
donc
plaisir.
La révolution ne sera pas télévisée, mais pasteurisée. C'est ça qu'il faut
exactement
comprendre.
Exactement.
Ok. Sinon, l'histoire d'un aéroport appelé à devenir un hub en Amérique centrale.
Mais qui va coûter très cher au Mexique. Le président du pays a décidé de lancer un nouveau projet.
Vamos a iniciar los trabajos.
Alors voilà, AMLO, comme on le surnomme avec ses initiales. Le président de gauche annonce ici le début des travaux à Santa Lucia. Nous allons résoudre le problème de saturation que nous rencontrons actuellement à l'aéroport de la ville de Mexico.
Se presenta actualmente en el aeropuerto de la ciudad de México.
Voilà, c'en est donc bien terminé pour l'ancien projet Texcoco, celui de l'ancien chef de l'État. L'une des premières décisions d'AMLO en arrivant au pouvoir l'an dernier a été de l'annuler. Sauf que le chantier était déjà bien avancé. Le site pensé par Enrique Peña Nieto se voulait un méga aéroport capable de rivaliser avec ceux de Panama City et de Miami aux États-Unis pour desservir donc toute la région. Déjà un tiers des travaux avaient été réalisés. Quand on sait que la facture globale était estimée à 13 milliards de dollars, on imagine bien le gâchis aujourd'hui. Santa Lucia, le nouvel aéroport, pour l'instant est une base militaire en banlieue de Mexico. Le projet, c'est donc d'agrandir cet aéroport pour l'ouvrir à des vols commerciaux. AMLO revendique un aéroport austère, à l'opposé de Texcoco, trop mégalomane. Mais les soucis techniques sont nombreux à Santa Lucia, entouré de reliefs, une région où la saison des pluies se prolonge souvent, avec une luminosité élevée, de la brume l'hiver. C'est un casse-tête pour les contrôleurs aériens. On mise même sur de nouvelles technologies pour les approches des avions, par satellite précise, mais donc complexe.
Allez, un petit clin d'œil pour terminer en ce début de Ramadan.
Clin d'œil des plus grands footballeurs de la planète.
Ramadan Mubarak.
Ici, ce sont les quatre du Real Madrid, Isco, Casemiro, Lucas Vázquez et Cristiano Ronaldo qui souhaitent un bon Ramadan. Cela fait certainement plaisir aux sponsors maillots, Fly Emirates. Et là...
Ramadan Mubarak.
Ramadan Mubarak.
Ramadan Mubarak.
Ramadan Mubarak.
Ramadan Mubarak.
Ramadan Mubarak.
Et ils n'ont pas tous l'accent. Kylian Mbappé, Thiago Silva, Neymar, voilà le PSG. Lui aussi se fend d'un message vidéo pour souhaiter un bon Ramadan par des joueurs pas musulmans donc, mais dont le patron, lui, est qatari, on s'en souvient.
Bon sang, mais c'est bien sûr.
Voilà.
Merci beaucoup Amélie Perrier, tous les jours d'un jour dans le monde.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
les routes France Inter.
Oh non!
Et c'est en Corée du Sud que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, une société qui reste patriarcale, très conservatrice. Seulement 2% des enfants naissent hors mariage. C'est le taux le plus faible des pays de l'OCDE. Ces naissances sont très stigmatisées. Les mères et leurs enfants sont victimes de fortes discriminations. Bonsoir Frédéric Ojardias.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Frédéric, vous avez rencontré deux de ces mères célibataires et on vous écoute.
Oui, je me suis rendu dans les locaux de KUMFA, l'association des familles de mères non mariées à Séoul. Des locaux modestes, deux petites pièces qui débordent de cartons de couches, de jouets, de layettes. C'est là que j'ai rencontré Chang Soo-jin, la maman d'une fille de 13 ans. Elle raconte que ses difficultés ont commencé dès la grossesse.
Je travaillais comme vendeuse dans une supérette. Quand mon patron a appris que j'étais enceinte et célibataire, il m'a virée. Il m'a dit « Je ne veux pas de quelqu'un comme toi ici ». Et il n'y avait pas que mon patron. Même mes collègues me montraient du doigt. Je ne pouvais plus travailler.
En Corée du Sud, les mères non mariées subissent des pressions énormes, y compris de leur propre famille, pour avorter ou pour abandonner leur bébé. Chung Soo-jin voulait d'abord donner le sien à une agence d'adoption, mais elle a changé d'avis après la naissance, une fois qu'elle a eu sa petite fille dans ses bras.
Des années plus tard, j'ai donné plusieurs interviews à la télévision pour faire connaître la situation des mères célibataires. Des gens de mon quartier m'ont reconnue. Certains se sont alors permis de faire des blagues. C'était des insultes à caractère sexuel.
Et alors cet ostracisme, Frédéric, qui frappe ses mères, d'où vient-il ?
Eh bien, sous sa façade de modernité, la société coréenne reste très influencée par l'idéologie confucéenne qui a régi le pays pendant des siècles. Le confucianisme promeut des valeurs très patriarcales. Les femmes qui ne se marient pas sont vues comme dépravées et leurs enfants aussi sont victimes de discrimination, comme l'explique Kim Do-kyung. Elle est la présidente de l'association KUMFA.
Lors d'une réunion de mères d'élèves, l'une d'entre elles a commencé à murmurer dans mon dos « c'est une mère célibataire ». Après ça, les parents ont demandé à leurs enfants de ne plus jouer avec mon fils. Quand ils organisent des rencontres entre parents, je ne suis jamais invitée. C'est comme ça que les mères célibataires se retrouvent isolées par la société.
La majorité de ces mères ont de grandes difficultés financières. Beaucoup ont du mal à trouver un emploi ou même à conserver le leur. Plus de 80% ne reçoivent aucune pension du père biologique et elles n'ont pas accès à certaines subventions du gouvernement qui ne sont destinées qu'aux couples mariés. Kim Do-kyung, elle, a pu s'en sortir. Elle a tenu bon grâce à son association.
Je n'avais pas d'argent. Je ne pouvais même plus voir mes amis. Je suis venue dans cette association pour rencontrer des femmes dans la même situation que moi. Ici, on ne se juge pas. On parle, on se réconforte. Ça a été une aide énorme. Nous avons aussi passé un accord avec des hôpitaux pour recevoir gratuitement des traitements médicaux si nécessaire, ainsi que des psychothérapies. Le gouvernement, lui, ne nous donne aucune subvention.
Kim Do-kyung accuse aussi les agences d'adoption de profiter de la détresse de ses mères pour les encourager à abandonner leur bébé.
Et c'est-à-dire, pourquoi cette accusation ?
Eh bien, la Corée du Sud a pendant des décennies envoyé des dizaines de milliers d'enfants se faire adopter à l'étranger. Or, 90% des enfants coréens adoptés sont nés de mères célibataires. Le pasteur Kim Do-hyun a créé à Séoul Korut. C'est une association de soutien aux adoptés qui reviennent en Corée une fois devenus adultes. Une grande partie de son combat consiste à soutenir les mères célibataires.
Quand elles tombent enceintes, ces femmes se retrouvent soudainement très pauvres, sans soutien, à la rue. Les seuls endroits qui peuvent les aider, ce sont les centres pour mères non mariées, qui sont gérés par les agences d'adoption. Mais le vrai but de ces centres, c'est de trouver des enfants à envoyer à l'étranger. On dit aux futures mères, si vous donnez naissance ici, vous devez consentir à faire adopter votre enfant. Vous devez renoncer à vos droits parentaux. C'est seulement une fois que ces formulaires de consentement sont signés que le centre accepte d'aider la future mère. Après la naissance, certaines mamans changent d'avis et veulent garder leur bébé. Mais l'agence d'adoption refuse et leur rappelle qu'elles ont signé les formulaires. C'est ainsi que ces agences peuvent gagner de l'argent en envoyant les enfants à l'étranger. Heureusement, en 2011, le Parlement a voté une loi qui interdit ces centres. C'est l'une des victoires de notre mouvement.
Et cette loi de 2011, c'est pas la seule victoire, Frédéric, remportée par les mères célibataires ces dernières années.
Oui, en 10 ans, leur situation s'est améliorée. Les médias, les discours officiels parlent de ces mères de façon positive. La loi aussi commence à évoluer. Depuis 7 années, les certificats de naissance des enfants n'indiquent plus si leur mère est mariée ou non, alors qu'avant, ces enfants étaient étiquetés dès la naissance. Et puis, toujours depuis 7 années, des subventions de 130 euros par mois sont prévues pour les mères célibataires. L'association Kumfa se bat aussi pour sensibiliser l'opinion à travers diverses campagnes. Un combat difficile, comme le souligne sa présidente.
Nous essayons de changer les mentalités, mais nous ne sommes qu'une toute petite association. On ne nous entend pas. C'est au gouvernement de changer la loi. Aujourd'hui, celle-ci ne vise que les gens qui sont mariés, ce que les gens appellent une famille normale. Nous nous sommes toujours considérés comme des familles anormales.
Une autre mère a aussi souligné que même si les gens se montrent plus compréhensifs, aucun parent ne veut que sa fille ne devienne une mère célibataire. C'est vu comme un signe d'échec. Les mentalités sont donc très lentes à changer.
Frédéric Ojardias en Corée du Sud. Merci beaucoup Frédéric et à très vite dans Un jour dans le monde comme d'habitude. Allez, je vous emmène bien, bien plus loin. Voici Bebel Gilberto, Sun is Shining. Bebel Gilberto sur France Inter. Sun is shining. Allez, on monte un peu plus au nord.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le Monde selon Trump, saison 3 avec l'événement politique et sportif du jour à Washington. Ce sera tout à l'heure, Grégory, à la Maison Blanche. Donald Trump va donc remettre à Tiger Woods, le golfeur, la médaille de la liberté. C'est la plus haute distinction civile du pays et c'est peu dire que votre président est un golfeur.
Oui, et d'ailleurs, c'est sans doute pas étranger à l'invitation lancée ce soir à Tiger Woods dans la roseraie de la Maison Blanche. Trump va lui remettre cette médaille de la liberté, et ce pour le féliciter après sa victoire au Masters d'Augusta en avril et son incroyable retour au premier plan. Vous avez raison, Trump, passionné de golf, on sait qu'il possède 19 parcours aux États-Unis et à l'étranger. On sait aussi qu'il y joue très souvent. On a fait le décompte depuis qu'il est à la Maison Blanche. Le 45e président américain a passé 174 jours au golf. Et c'est plutôt étonnant quand on se souvient comment, lors de la campagne de 2016, Donald Trump attaquait son prédécesseur Obama, l'accusant de passer plus de temps à golfer qu'à travailler.
I mean, this guy, golf, 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 more, more.
Voilà, bon, en vérité, Fabienne, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Puis à propos de Trump et du golf, il y a ce livre paru le mois dernier et qui a beaucoup fait parler ici aux États-Unis, livre du journaliste Rick Reilly, et qui s'appelle Commander in Cheat, traduction tricheur en chef, parce qu'apparemment, sur les parcours, Donald Trump aime bien pousser un peu ses balles du pied ou repousser carrément celles de ses adversaires. Il triche. La thèse de l'ouvrage, d'ailleurs, c'est qu'au golf, comme en politique, le président américain aime bien s'affranchir des règles et des usages.
Bah, vous lui demanderez, tiens, ce soir, puisque vous serez à la Maison Blanche, ça me paraît être une bonne introduction. Vous nous raconterez cette remise de médaille à Tiger Woods. Grégory, beaucoup moins festif pour Donald Trump. Les suites de l'enquête russe sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle de 2016. On a le rapport du procureur Miller. C'est un gros pavé. Mais on aimerait bien entendre le procureur spécial directement. Alors, c'est pour bientôt ou pas?
Oui, alors le rapport Mueller, vous avez raison, on l'a dans une version un peu expurgée. Le livre de 480 pages est en tête des ventes ici aux États-Unis dans la catégorie essai de New York Times. Mais c'est vrai qu'on aimerait l'entendre, ce procureur spécial. Et d'ailleurs, hier sur Fox News, le représentant démocrate David Chichilin a émis l'idée que le patron de l'enquête russe soit bientôt entendu par le Congrès dans les tout prochains jours.
La date a été fixée au 15 mai. Nous espérons voir le procureur spécial. Les Américains ont le droit de l'entendre directement, mais jusqu'à cette date, on n'a aucune garantie sur ce qui peut se passer. La Maison Blanche a jusqu'ici fait savoir qu'elle n'interviendrait pas pour empêcher ce témoignage, et on espère que ça ne va pas changer.
Eh oui, sauf que depuis, Donald Trump a réagi et écrit sur Twitter qu'à ses yeux, le procureur ne doit pas témoigner. Donc, intervention de la Maison Blanche. La date du 15 mai n'est donc pas confirmée. Mais si l'audition a lieu, ce sera évidemment un événement, en tout cas ici à Washington. Je peux vous dire que les bars, les cafés, les restaurants organiseront des diffusions comme pour un match de foot américain. Et puis un mot, Fabienne, dans ce dossier, vous vous souvenez de Michael Cohen, l'ex-avocat de Trump, celui qui jurait être capable de se prendre une balle pour défendre son client. Eh bien, il entame aujourd'hui même une peine de 3 ans de prison pour fraude fiscale, pour avoir menti au Congrès et aussi pour avoir acheté le silence de 2 ex-maîtresses du président.
Allez Grégory, il nous reste une bonne minute pour terminer un point sur la présidentielle de 2020. Donc on a vu que c'était fait, Joe Biden s'est lancé dans la course à l'investiture. On compte, ils sont combien désormais?
Alors ils sont 21 si on compte Biden, l'ancien vice-président d'Obama, immédiatement rebaptisé par Trump Sleepy Joe, l'assoupi, sympa, et peut-être 22 après-demain si, comme le croit le Daily News, le maire de New York, Bill de Blasio, se présente également. Et puis un mot quand même, Fabienne, sur la démocrate dont tout le monde parle en ce moment aux États-Unis comme en France, c'est la benjamine du Congrès, la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez AOC, qui fait l'objet d'un documentaire politique absolument passionnant qui est sur Netflix depuis quelques jours et qui s'appelle Knock Down the House. Voici un extrait.
My mom cleaned houses growing up. I never really saw myself going into politics.
Voilà, je sais que vous l'avez vu, Fabienne, mais vraiment, je le conseille à tout le monde. Très, très bon documentaire sur l'ascension politique de cette jeune femme.
Ça réconcilie quasiment avec la démocratie, ce film-là, vraiment.
Et avec,
l'engagement en politique, en fait.
Juste une précision, Ocasio-Cortez, à 29 ans, même si elle est très médiatique en ce moment, elle ne peut pas se présenter à la présidentielle. Il faut avoir 35 ans minimum. En revanche, elle aura l'âge, pourquoi pas, éventuellement en 2024, mais on n'en est évidemment pas encore là.
Comme vous dites, merci beaucoup. Vous, Grégory Philippe, c'est Le Monde selon Trump, tous les lundis dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
Oui, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, le calme est donc revenu à Gaza, apparemment après 2 jours et 2 nuits d'affrontements entre le Hamas et l'armée israélienne. Ce sont les combats les plus violents depuis 5 ans, mais vous nous dites Il faut pacifier, ce n'est pas le début d'une nouvelle guerre, c'est juste une partie d'échec meurtrière et c'est votre monde à l'envers.
La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Vous connaissez, Fabienne, cette formule de Klaus Fitz, bien connue des étudiants en sciences politiques. Elle est très appropriée pour analyser la situation à Gaza. À première vue, c'est vrai, on se dit ça sent la guerre. En un peu plus de 48 heures, 690 tirs de roquettes palestiniennes vers Israël, 350 frappes israéliennes sur Gaza, bilan 29 morts, 4 civils israéliens et 25 palestiniens. Ça ressemble au début d'un engrenage, sauf qu'en fait, aucune des deux parties ne veut vraiment la guerre. Ce qui est à l'œuvre, effectivement, ce sont uniquement des calculs politiques de la part du Hamas en particulier. Le premier calcul est interne à la bande de Gaza. Le Hamas contrôle ce petit territoire grand comme à peu près trois fois Paris, mais il y est confronté à une double contestation. D'abord, il y a la rivalité militaire d'un autre mouvement, le djihad islamique lié à l'Iran. C'est l'un de ces snipers qui a déclenché l'engrenage vendredi dernier en tirant sur des soldats israéliens. Le Hamas ne pouvait pas prendre le risque d'apparaître plus faible que le djihad islamique, donc il a embrayé avec des tirs de roquettes. Ça, c'est la course à l'échalote. Ensuite, et plus encore, la contestation sociale à Gaza. Sur fond de Ramadan qui débute, la grogne est forte parmi les Gazaouis, avec plus de 40% de chômage, une économie à l'arrêt, une densité de population énorme, 5000 habitants au kilomètre carré. Donc tirer sur Israël, c'est une façon pour le Hamas de faire diversion, de rediriger la colère contre les Israéliens.
Et donc le résultat, c'est Israël qui se prend des roquettes.
Oui, alors des civils israéliens, effectivement, à Ashkelon, à Ashdod, à Beersheva. Et l'armée israélienne, évidemment, riposte en tuant des combattants du Hamas et aussi des civils palestiniens. Mais là encore, c'est un peu un jeu de rôle macabre, un calcul politique. Que cherche le Hamas ? À mettre la pression sur Benjamin Netanyahou, au moment où le Premier ministre israélien, on le sait, cherche à former son gouvernement, et à quelques jours d'un événement qui va braquer les projecteurs internationaux sur Israël, le concours de l'Eurovision. Le Hamas parie sur le fait que Netanyahou ne veut pas d'ennui maintenant. C'est donc un bon moment pour obtenir une poursuite de l'allègement des sanctions obtenues pendant la campagne électorale. Limitation des contrôles aux postes frontières, autorisation de l'aide financière du Qatar à Gaza, qui permet notamment d'assurer l'approvisionnement en électricité. Et ça marche. Le cessez-le-feu obtenu la nuit dernière semble de fait prévoir ces dispositions. Donc c'est une escalade calculée, une agression proportionnée si vous voulez, avec un but politique, en misant sur le fait que seule la violence fait bouger le gouvernement israélien.
Donc enfin tout ça c'est de la tactique à la petite semaine, c'est pas ça qui va régler le problème de fond.
Sans doute pas, même s'il y a aussi une stratégie à moyen terme du Hamas. Je m'explique. Le mouvement islamiste fait sans doute le pari que la bande de Gaza n'intéresse pas Israël. Autant Netanyahou lorgne, on le sait, sur l'autre territoire palestinien, la Cisjordanie, plus riche et surtout truffée de colonies israélienne qu'il veut annexer, autant il n'a aucune convoitise sur la zone semi-désertique et 100% palestinienne de Gaza. Donc le message du Hamas s'adresse cette fois aux États-Unis, au moment où Washington pourrait dévoiler d'ici l'été son nouveau plan de paix. Spéculons un peu. Le sous-entendu du message pourrait être le suivant. Dans votre plan, faites ce que vous voulez avec les Palestiniens de Cisjordanie, c'est pas notre sujet. En revanche, si vous voulez qu'on arrête de tirer des roquettes sur Israël, le prix sera plus élevé. Il se murmure que les États-Unis ne seraient pas opposés à un projet de développement économique de Gaza. Un aéroport, une usine de désalinisation de l'eau de mer, un approvisionnement gazier, une zone de pêche élargie, des accords commerciaux, etc. Dans l'esprit du Hamas, le projet va sans doute plus loin. Un État palestinien, évidemment, mais uniquement à Gaza, avec peut-être aussi une partie du Sinaï que pourrait rétrocéder l'Égypte. C'est ça aussi le message politique contenu dans ces requêtes. Donc il y a bien une partie d'échec en cours, avec au milieu des victimes civiles des deux côtés qui sont des pions dans cette partie.
Jean-Marc Fouret, Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain, le 18-20. La suite, c'est le téléphone sonne, mais juste avant, il y a le journal de Sébastien Paour. Il est 19h.